d'où est-ce qu'on vient? Je parle pas de notre ville ou de notre pays de naissance. Je parle de notre naissance à tous, de la naissance de l'univers. Tout ce qu'on voit dans le ciel a la même origine que nous, la même naissance que nous. Pourquoi sommes-nous là et d'où venons-nous réellement? On nous parle souvent du Big Bang, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui l'a précédé et qu'est-ce qui l'a déclenché? Depuis la nuit des temps, l'humanité n'a eu de cesse de se poser cette question fondamentale sur nos origines. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans ce voyage cosmique pour trouver des réponses. Tout ce qui nous entoure, tous les objets, toute la matière qui constitue ton corps ou celui de tes proches, chaque molécule, chaque atome, chaque particule, tout a une origine. Les planètes, les galaxies, les étoiles, les astéroïdes, tout ce qu'on peut trouver dans notre univers, tout a une origine. Et cette origine provient d'un seul et même endroit dans l'espace et le temps. Un point qu'on peut appeler singularité. D'ailleurs, je te le dis ici, si t'as des questions pendant cette vidéo, n'hésite pas à venir sur Instagram, mes DM sont ouverts. Imaginez tout l'univers. Tout ce que vous connaissez et tout ce que vous ne connaissez pas encore, condensé en un point infiniment petit. Un point encore plus petit qu'un grain de sable. Patientez à peine le temps d'une seconde, et boum, c'est le Big Bang. Une expansion colossale et extrêmement rapide émanant de cette singularité. C'est le moment de la naissance de notre univers. Le début de tout, le commencement de notre univers. Comment est-ce qu'on est au courant de ça? Comment on peut affirmer ce qu'il s'est passé il y a des milliards d'années alors que nous n'étions même pas là? La quête pour comprendre nos origines n'est pas simplement philosophique. Elle est surtout scientifique. Les plus grands esprits de notre époque se sont consacrés à ces questions pour nous apporter des réponses. Chacune de leurs réponses a comme constitué une sorte de puzzle cosmique, révélant petit à petit, doucement mais sûrement, le commencement de notre univers. Dans cette vidéo, nous verrons les preuves, les théories et tous les mystères liés à la naissance de notre univers. Je vous embarque avec moi dans ce voyage au cœur de l'espace-temps. On va traverser plusieurs époques de notre univers pour comprendre la naissance de notre univers. Au départ, il ne régnait que le chaos, le désordre total. Notre univers, mélangé de toutes parts, avait l'allure d'une coquille d'œuf. De là, Pangu se réveille, et de par son envie de créer de l'ordre, il brisa sa coquille d'œuf. Au fur et à mesure qu'il grandissait, il sépara la lumière des ténèbres, pour former le ciel et la terre. Après 18 000 ans d'efforts, il souffla. Son souffle créa le vent et les nuages. Son œil gauche forma le soleil, et son œil droit, la lune. Et c'est ainsi que notre univers est né, avec la Terre. Ça, c'est selon la mythologie chinoise. Et des histoires comme ça, il en existe plusieurs centaines dans toutes les civilisations du monde. Avec le temps, on a pu trouver des preuves et des explications viables qui relatent de la vraie histoire de notre univers. Mais cette histoire, je vais vous la raconter juste après, dans les moindres détails. Dans le courant du XXe siècle, des astronomes ont réussi à observer des sortes de taches floues dans le ciel. Au départ, on pensait que c'était des nébuleuses. Mais finalement, dans les années 1920, Edwin Hubble décide d'en apprendre un peu plus sur ces taches floues assez mystérieuses. Grâce au télescope Hooker, il parvient à mesurer la distance qui nous sépare de l'une de ces nébuleuses. Sa découverte fut choquante. Il ne s'agissait pas en fait de nébuleuses puisqu'elles étaient beaucoup trop loin pour se trouver dans notre galaxie la Voie lactée. Il s'agissait en fait d'autres galaxies situées encore plus loin dans l'espace. Il fit la découverte de la galaxie NGC 6822, celle du Triangle et même celle d'Andromède. Leur distance était telle qu'il fallait des millions d'années pour que leur lumière nous parvienne. Et cette prise de conscience a véritablement repoussé les limites de l'univers. Alors qu'on pensait que l'univers ne s'étendait pas au-delà de la Voie lactée, on a alors fini par comprendre qu'il existait en fait d'autres galaxies, comme la nôtre, dans l'espace. Peut-être que vous le savez déjà, plus on observe loin dans l'univers, plus on voit le passé. Ça, c'est dû à la vitesse de la lumière qui est finie. Lorsqu'un objet est loin, il faut un certain temps pour que sa lumière nous parvienne. Et parce qu'on parvenait à observer des galaxies situées à des distances de plusieurs millions ou milliards d'années-lumière, on savait alors que leur lumière qu'on recevait avait été émise il y a des millions ou des milliards d'années. C'est comme ça qu'on a compris que notre univers était en fait bien plus âgé et bien plus grand que ce qu'on pouvait penser. Et 5 ans plus tard, Edwin Hubble fait une seconde découverte encore plus intéressante en 1929. En analysant la lumière des galaxies les plus lointaines, il pouvait déterminer si elles se rapprochaient ou s'éloignaient de nous. Observation après observation, la conclusion est sans appel. Toutes les galaxies lointaines s'éloignent de nous. En d'autres termes, notre univers est en expansion. tout ce qu'on pensait de l'origine de notre univers s'en trouve changé dans la tête des plus grands esprits scientifiques de la planète. En l'espace de quelques années, on comprend que notre univers s'étend sur des milliards d'années-lumière et qu'il s'étend depuis une période finie. Plus les galaxies sont loin de nous, plus elles s'éloignent de nous rapidement. L'expansion de l'univers est donc accélérée. Mais qu'est-ce qui s'est alors passé dans le passé? Si ces galaxies situées à des milliards d'années-lumière d'ici s'éloignent de nous, ça signifie qu'il y a plusieurs milliards d'années, alors ces galaxies étaient plus proches. En calculant la vitesse à laquelle ces galaxies s'éloignaient de nous, on a pu obtenir une valeur, la vitesse d'expansion de l'univers. Soit en fait 70 km par seconde par mégaparsec. Connaître cette valeur ne vous apportera strictement rien, mais c'est toujours ça d'appris. En connaissant ça, on peut alors remonter le temps. En envisageant cette expansion accélérée, à l'inverse, on en vient à une conclusion étonnante. Il y a 13,7 milliards d'années, tout dans l'univers était concentré en un unique point. Notre univers a eu un commencement. Et c'est là qu'on en vient à prouver la théorie du Big Bang. Mais justement, si ce Big Bang a bel et bien eu lieu, alors on devrait y retrouver des traces, quelque chose qui nous prouve que tout était lié par une même origine. C'est justement ça qu'on découvre en 1965. En utilisant un radiotélescope, Arno Penzias et Robert Wilson découvrent un faible rayonnement électromagnétique présent partout dans notre ciel. Ce rayonnement se trouvait sous la forme des micro-ondes et semblait provenir de toutes les directions. C'est ce qu'on appellera donc finalement le fond diffus cosmologique. Sa présence est en fait tellement universelle qu'on peut même la détecter dans la vie de tous les jours. En allumant une vieille télévision par exemple, une partie du bruit qu'on peut voir sur l'écran correspond justement à ce rayonnement cosmique émis il y a plus de 13 milliards d'années. En 1989, on a pu mesurer la température de ce fond diffus cosmologique grâce au satellite Kobe. Alors je dis Kobe, mais je sais pas si ça se prononce comme ça, dites-moi. En tout cas, c'est C-O-B-E. Et bref, en le mesurant, on a estimé qu'il avait une température de près de 2,728 Kelvin. Ça correspond à moins 270,4 degrés. Ce chiffre bien glacial est en fait le résultat d'un univers anciennement extrêmement chaud qui s'est refroidi. Mais en quoi le fond diffus cosmologique est une preuve qui consolide encore plus la théorie du Big Bang ? Il y a 13,7 milliards d'années, tout notre univers était concentré en un point extrêmement dense et chaud, d'après ce que prouve l'expansion accélérée de notre univers. À la suite du Big Bang, l'univers s'est donc étendu et refroidi, et une fois qu'il était assez froid, il a commencé à rayonner. Et ce premier rayonnement-là, c'est le fond diffus cosmologique qui englobe notre univers en entier, et qu'on a découvert en 1965. C'est de cette manière qu'on en est venu à justifier le Big Bang. Tous les scientifiques peuvent l'admettre aujourd'hui, le Big Bang a bien eu lieu. Et il n'y a aucune théorie ou hypothèse qui puisse détrôner la théorie du Big Bang pour le moment. Rien ni personne ne peut la contredire à l'heure actuelle. On peut penser que le Big Bang n'a pas eu lieu, mais il faut trouver une manière fiable d'expliquer ce qu'on observe aujourd'hui. Le Big Bang, c'est la théorie selon laquelle l'univers a commencé à partir d'un seul et unique point, extrêmement petit, extrêmement chaud et extrêmement dense. Imaginez l'ensemble de la matière et de l'énergie de l'univers condensé en un point extrêmement petit, la singularité. Et c'est à partir de ce point que l'univers a commencé à s'étendre. C'est à partir de là qu'il est né. À partir de là que tout a commencé. Le Big Bang n'est pas une explosion du début de notre univers comme on peut souvent le dire. C'est seulement l'expansion d'un point infiniment petit en un espace-temps aussi grand que l'univers à l'heure actuelle. Mais une fois qu'on sait ça, on peut se poser de multiples questions. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Qui ou quoi ou quel phénomène a déclenché le Big Bang ? Comment autant de quantités de matière pouvaient se retrouver en un seul et unique point, tellement petit que sa taille est presque nulle ? Comment l'univers a-t-il pu naître de rien ? Le Big Bang, c'est pas la phase de l'instant zéro de l'univers. C'est le moment où l'univers était petit, dense et chaud, et où il s'est étendu par la suite. En fait, l'instant zéro, on le connaît même pas, mais on sait ce qu'il s'est passé juste après. C'est justement ce dont on va parler maintenant, de l'histoire du Big Bang. Avant d'en arriver là, à la naissance des étoiles, des galaxies, des planètes, notre univers a subi tout un tas de changements, et ce, directement après le Big Bang. Tout commence donc là. On précisera ce moment un peu plus tard dans la vidéo, mais nous on va s'intéresser juste à l'instant qui suit, l'instant qu'on connaît. On se trouve donc à 10 puissance moins 43 secondes après l'instant 0. C'est donc une fraction de nanoseconde après l'instant 0, là où tout a commencé. En ce temps-là, avant ces 10 puissance moins 43 secondes, on ne connaît rien du comportement de notre univers. Alors c'est étrange, mais on est comme limité par un mur imaginaire qui nous empêche de voir au-delà. Ce mur, c'est le mur de Planck. En fait, avant ces 10 puissance moins 43 secondes, notre univers est trop petit pour qu'on puisse le comprendre. Pour comprendre notre univers, on utilise deux piliers fondamentaux. D'un côté, il y a la relativité générale d'Einstein qui se base sur la gravité, la masse des objets dans l'univers, etc. Et de l'autre, on a la mécanique quantique, qui décrit des phénomènes dans le monde de l'infiniment petit, donc en gros le comportement des atomes, des particules et autres. Et ces deux piliers-là, ils sont incompatibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas décrire quelque chose en même temps par la relativité générale et en même temps par la mécanique quantique. Tout simplement parce que ça mène à des contradictions, des non-sens et des résultats qui sont totalement incohérents. Et ça, c'est justement le problème qu'on a pendant cette fameuse ère de Planck. C'est en gros le moment entre l'instant zéro, donc le tout début de notre univers, et les 10 puissance moins 43 secondes qui suivent cet instant zéro. À cette époque, l'univers était trop petit, trop dense, trop chaud, pour qu'on puisse le décrire par l'un de ces deux piliers. Mais ça, vous inquiétez pas, on va y revenir tout à l'heure. Après cette période, il se produit ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Ça correspond à l'expansion hyper rapide de notre univers. En l'espace d'une fraction de nanoseconde, l'univers multiplie sa taille de 1 milliard de milliards de milliards. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais l'univers a pris un volume exceptionnel en l'espace d'une fraction de nanoseconde. C'est juste oufissime. La suite de ce que je vais vous raconter va peut-être être un peu compliquée, mais faites pas gaffe aux détails scientifiques, suivez juste le récit tel qu'il est. Pendant cette inflation cosmique, donc cette expansion hyper rapide, l'univers n'était composé que d'énergie. À l'échelle quantique, donc à une échelle très petite, des paires de particules et d'antiparticules virtuelles apparaissent et disparaissent instantanément, en interagissant entre elles dans ce néant total qui grandit. Mais lorsque l'inflation cosmique s'arrête, l'énergie stockée est convertie en particules et antiparticules réelles. On appelle cette époque-là la baryogénèse. Et ensuite vient le découplage des neutrinos. Alors que notre univers est encore extrêmement chaud, il continue quand même de refroidir. Pendant cette période, des particules telles que les protons, les neutrons, les électrons, les photons et les neutrinos interagissaient entre elles. Mais parce que l'univers baisse en température, les neutrinos vont se mettre à de moins en moins interagir avec les autres particules. Juste après ça, parce que la température va continuer de baisser, une majorité des électrons vont entrer en collision avec leurs antiparticules et disparaître. Et les particules d'électrons restants, qui sont des électrons libres, vont jouer un rôle crucial pour la suite. Bon, je vous rassure, on a passé l'étape la plus technique. Si vous avez pas tout compris, c'est pas très grave, retenez juste qu'il y a eu comme un jeu entre plusieurs types de particules qui vont mener à ce que je vais vous raconter maintenant. On est actuellement à près d'une seconde après l'instant zéro quand a lieu la nucléosynthèse primordiale et qui va durer 3 minutes. En 3 minutes, les noyaux atomiques vont se former, tels que les noyaux d'hydrogène et d'hélium. C'est d'ailleurs les seuls types de noyaux qui vont se former parce que l'univers est encore trop chaud pour former des noyaux d'atomes plus lourds. Enfin, l'univers continue de s'étendre encore et encore au même rythme qu'aujourd'hui. Plus il s'étend et plus sa température diminue. Pendant près de 380 000 ans après le Big Bang, les électrons libres qui restaient et qui n'ont pas disparu dans les premières nanosecondes vont se lier aux noyaux atomiques déjà présents. On appelle cette époque la recombinaison. Et lorsque les électrons se lient au noyau atomique, alors des photons sont émis. Pour rappel, un photon, c'est une particule de lumière. C'est donc pendant cette période-là qu'une quantité énorme de photons va être émis. On est donc 380 000 ans après le Big Bang, et la lumière est enfin libérée et peut voyager dans l'univers. En fait, c'est donc la première fois depuis le Big Bang que l'univers rayonne. Ce premier rayonnement-là, on le connaît, c'est le fond diffus cosmologique qu'on détecte aujourd'hui sous la forme des micro-ondes. Ce fond de rayonnement-là, émis il y a près de 13,7 milliards d'années. C'est là qu'on comprend qu'il est très important d'étudier le fond diffus cosmologique, puisque c'est l'information visuelle la plus ancienne qu'on a de notre univers. En regardant le fond diffus, on voit le moment de la formation des atomes. Et d'ailleurs, à force de l'observer, on a pu en faire une map. Cette map, c'est celle-ci. Au tout départ, quand on l'a mesuré pour la première fois, on voyait que ce bruit de fond cosmique était très homogène. C'est-à-dire qu'il était pareil partout, sans aucune distinction. Mais finalement, avec la technologie qui évolue et en l'analysant de nouveau, on s'est vite rendu compte qu'il n'était pas exactement pareil partout. On détecte d'infimes variations très légères, comme si le fond diffus cosmologique avait des reliefs. Certaines zones sont en fait légèrement plus chaudes que l'autre. Les variations de température qu'on observe sont en réalité dues à des variations de densité, c'est-à-dire des zones où il y a plus de quantité de matière en un point que d'autres. En suivant ce schéma, c'est comme ça qu'on peut expliquer la formation des galaxies. Dans certaines zones de l'univers, il y avait plus de matière. Et c'est dans ces endroits-là que, par agglomération de matière, les galaxies se sont formées. Maintenant, il nous manque une seule réponse. À quoi sont dues ces variations? Eh bien en fait, c'est dû à des fluctuations quantiques qui avaient eu lieu quand l'univers était très très jeune. Des fluctuations quantiques, c'est le changement de niveau d'énergie dans un certain point de l'espace, mais à l'échelle quantique. Donc en fait, le fond diffus cosmologique prouve qu'à une certaine époque, l'univers était réduit en un point infiniment petit. Ce n'est que 380 000 ans après le Big Bang que l'univers est devenu transparent et rayonnant. Par la suite, la matière va se former et s'agglomérer pour créer les étoiles. les étoiles, de par leur fusion nucléaire, vont former des atomes plus lourds, comme le carbone, l'oxygène et autres qui sont des atomes qu'on retrouve sur Terre aujourd'hui. Les galaxies vont se former, la mort et la naissance des étoiles n'aura de cesse de se répéter pendant plusieurs milliards d'années. Et finalement, on arrive à notre époque, 13,7 milliards d'années après le Big Bang, où tu es là, à regarder cette vidéo. Maintenant, on sait ce qu'est le Big Bang. On sait les étapes de la naissance de notre univers, mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore. C'est tout simplement, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Comment l'univers, avec toute cette énergie, toute cette matière, a pu naître du néant, du rien? C'est là que les avis vont diverger. Certains vont pencher vers une explication qui sera celle de la religion. Personnellement, c'est pas mon cas. J'ai pas exposé tout mon avis ici, mais je pense que la naissance de notre univers est tout simplement due à quelque chose de naturel, obéissant aux lois de la physique, et non à l'intervention d'un être divin qui lui n'obéira aucunement aux lois de la physique qui régissent notre univers. Cependant, libre à chacun de penser ce qu'il veut, de croire en ce qu'il veut, et je vous demanderai de vous respecter en commentaire. Mais donc alors, qu'est-ce qui a précédé le Big Bang? Et bien là-dessus, il y a plusieurs possibilités. On peut penser que notre univers fait comme des rebonds sur lui-même. C'est-à-dire qu'une fois que son expansion est terminée, la gravité prend le dessus, et tout l'univers se contracte sur lui-même. On appelle ça le Big Crunch. Et quand tout l'univers sera suffisamment effondré sur lui-même, les conditions de pression et de température redeviendront extrêmes. Alors aura lieu un nouveau rebond qui relance un nouveau Big Bang, c'est alors le Big Bang. Et ce, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'univers ne puisse plus rebondir. Mais si on admet ça, on pourra toujours se demander qu'est-ce qui a déclenché ce fameux Big Bang. Et là, on en vient au même problème. Personnellement, je ne crois pas en cette théorie et je vais vous expliquer ce en quoi je crois juste après. Notre univers aujourd'hui se compose de 4 dimensions. 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Ces dimensions se sont créées et étendues au même moment que le Big Bang. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espace et le temps ont été créés à ce moment-là, à l'instant zéro. Avant cet instant, il n'y avait pas d'espace, ni de temps. Le temps n'existe pas avant le Big Bang. Avant ce moment, il n'y a pas de moment, puisqu'il n'y avait pas de temps. Avant le Big Bang, c'est comme un moment qui n'existe pas. Ce n'est qu'après l'instant zéro que l'horloge a commencé à faire tic-tac. Alors se demander ce qu'il y avait avant le Big Bang n'a pas de sens et est totalement illogique. C'est pourquoi un être divin ne pouvait vraisemblablement pas exister puisqu'il n'y avait pas de temps pour engendrer ce Big Bang. Pour moi, notre univers a pu naître de rien. Enfin, en réalité, peut-être qu'au temps initial, il n'y avait pas totalement rien. Peut-être qu'il y avait juste de l'énergie. On sait que le Big Bang, c'est à la base une énorme quantité d'énergie qui s'est finalement convertie en particules puis en matière qu'on peut aujourd'hui toucher et voir. En cosmologie, on pense que la somme de toute l'énergie présente dans l'univers est égale à zéro. Parce que oui, il existe l'énergie positive et l'énergie négative. S'il y a autant d'énergie positive que d'énergie négative, alors la somme des deux, ça fait zéro. Dans la vie de tous les jours, l'énergie positive, c'est l'énergie associée à la matière, à ce qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, l'énergie négative, elle est un peu plus compliquée à repérer. Mais justement, on pense qu'elle est bien présente dans notre univers. Par exemple, l'énergie noire serait une forme qu'aurait pu prendre cette énergie négative dans notre univers. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que notre univers en entier serait neutre énergétiquement. Il y aurait autant d'énergie négative que d'énergie positive. Alors à la base, au moment du Big Bang, l'univers n'aurait pas eu besoin d'énergie de départ pour se créer, puisque la somme totale de ces énergies est égal à zéro. C'est peut-être aussi ça qui peut renforcer l'idée qu'il n'y a pas eu l'intervention d'une divinité. Parce que sinon, on pourrait penser que c'est cet être divin qui a donné l'énergie de départ pour créer l'univers. Sauf que justement, il n'y a pas eu besoin de cette énergie de départ. En fait, il n'y a peut-être eu besoin de rien. Seulement la question, c'est qu'est-ce qui a déclenché le Big Bang? Et ça, on va le voir juste après. Aujourd'hui, si on peut décrire notre univers, c'est parce qu'on a pu élaborer des lois pour le comprendre. On sait comment et pourquoi les planètes orbitent autour des étoiles, on connaît le comportement de l'énergie, des ondes électromagnétiques, des particules et autres. On sait le formuler, le calculer et le représenter. On a pu adapter, grâce à notre langage, les lois de notre univers en quelque chose de compréhensible pour nous. C'est comme ça qu'on peut anticiper des vitesses, des directions, penser le passé ou prédire l'avenir sur certains phénomènes. Par les mathématiques, on a pu trouver des constantes qui sont universelles partout dans l'univers, comme la masse d'un proton, la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, et j'en passe. L'homme, aussi petit qu'il soit, est brillant. Mais d'où sortent ces constantes? Et bien en fait, elles sont nées en même temps que notre univers, au moment du Big Bang. Dès cet instant, c'était vu. La lumière allait avoir une vitesse de 299 792 km par seconde. Les lois deviennent ce qu'elles sont et restent inchangées. Mais alors, pourquoi notre univers a été créé ainsi? Si ne serait-ce qu'une de ces lois est modifiée, alors les conséquences seraient dramatiques pour notre univers. Si jamais ces lois ou ces constantes avaient été tout autres, peut-être que jamais l'humain aurait pu voir le jour. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Le fait que l'univers est tel qu'il est et que c'est comme une évidence que l'homme voit le jour. Ou alors, peut-être qu'une autre forme de vie aurait vu le jour et se serait d'ailleurs posé la même question, pourquoi notre univers paraît si parfait? Bon, à cette question, il y a plusieurs réponses, mais j'y répondrai dans un prochain épisode. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est pourquoi le Big Bang? Pourquoi a-t-il lieu? Il n'y avait rien à la base. Pas de temps, pas d'espace. Mais donc, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur du Big Bang? Notre univers est né d'un état dense et chaud. Avant ça, il n'y avait rien. Alors comment un tel état a pu émerger d'un autre état totalement opposé? Eh bien en fait, on ne sait pas. Comme je vous l'ai dit, avant le mur de Planck, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. L'univers était tellement petit qu'il faut faire appel à la mécanique quantique, c'est-à-dire l'étude des phénomènes à l'échelle atomique. Dans le monde du très petit, les lois sont totalement différentes. Des particules peuvent surgir à un endroit et disparaître à un autre, être à une position puis une autre à la fois, ou avoir des vitesses différentes. Mais la réponse de ce qui a déclenché le Big Bang se trouve sûrement dans ce monde-là. Un phénomène aurait provoqué une fluctuation d'énergie et par effet boule de neige, provoqué le Big Bang. En fait seulement, on n'a pas de réponse à cette question pour le moment. Il y a bien des hypothèses, mais aucune n'est viable à 100%. Cependant, la cause d'un être divin n'est pas exclue pour autant, bien que je sois moi-même, pas de ce penchant-là. Mais parce qu'on l'ignore, ça ne veut pas dire qu'il y a eu forcément l'intervention de cet être divin. En fait, la question de pourquoi le Big Bang est une question qui reste en suspens. Il y a une théorie qui existe, qu'on appelle la théorie de l'inflation éternelle. C'est en fait une inflation cosmique, mais qui ne s'arrête pas. On en a parlé tout à l'heure, l'inflation cosmique, c'est ce qui fait que notre univers est passé d'un tout petit point à une taille gigantesque. Selon la théorie qui a été proposée par André Linde, l'inflation cosmique qu'on a connue ne s'est arrêtée qu'en certains points de l'univers. Mais au-delà de son horizon, à certains endroits, cette inflation a continué et a créé d'autres univers. Cette énergie a continué à certains endroits et s'est arrêtée à d'autres. Et dans les endroits où l'inflation s'arrête, l'énergie est convertie en matière et crée un univers. Ainsi, peut-être qu'il existerait d'autres univers. Et là, on en vient à la théorie des univers multiples. À la manière d'une infinité de boules de billard, chaque boule est un univers. Et nous, on fait partie de l'une de ces boules. J'aime beaucoup cette théorie puisqu'elle semble tenir la route. Alors c'est un peu dur à y croire, mais pourtant c'est pas impossible. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'élément déclencheur puisque cette inflation a toujours eu lieu et a toujours existé. Peut-être que finalement, c'est notre cerveau qui a du mal à accepter l'idée qu'il n'y a pas eu de début, ni de fin. Les infinis sont toujours problématiques puisqu'on aura toujours du mal à les représenter. Pourtant, les infinis existent. Vous pouvez compter toute votre vie sans jamais vous arrêter. La mécanique quantique nous ouvre bien des portes sur un domaine où il se passe des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à notre échelle. Donc l'idée d'une inflation éternelle me paraît pas étonnante. Par contre, comme ces autres univers sont inobservables, ça sera compliqué de prouver sa fiabilité. Revenons-en au tout départ, ce point qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. À ce moment-là, étant donné qu'on est à t égale 0, soit le temps égale 0, le temps n'existe pas. C'est pour ça que c'est une singularité, c'est un point sans dimension qui contient toute l'énergie de l'univers. Alors vous vous dites peut-être qu'il suffit d'aller au centre de l'univers pour retrouver cette singularité et l'analyser. Sauf que ça marche pas comme ça. Ce point, c'est l'univers. L'univers tout entier résulte de l'expansion même de cette singularité. C'est cette singularité-là qui a gonflé et qui a multiplié sa taille par 1 milliard de milliards de milliards. Elle se situe au centre même d'un trou noir et c'est elle qui est responsable de la densité extrême présente aux abords des trous noirs. C'est à cause d'elle d'ailleurs qu'un trou noir est noir, puisque la lumière ne peut même pas résister à son attraction. C'est ce point qui courbe à l'infini l'espace-temps sur lui-même, et qui mène soit nulle part, soit autre part, ou peut-être même dans un autre univers. On pourra peut-être même jamais comprendre cette singularité initiale, puisque les théories fondamentales sur lesquelles on se base pour expliquer le Big Bang s'effondrent en ce même point. C'est pourquoi on a pu mettre en place d'autres théories pour tenter d'unifier ces deux piliers de la physique moderne, comme par exemple la théorie des cordes, et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Depuis la nuit des temps, on tente de comprendre comment nous sommes arrivés là, la raison et le pourquoi du comment. On a su expliquer scientifiquement tout ce qu'il s'est passé, jusqu'à ce qu'on rencontre un mur. Le mur de Planck. Avant les 10 puissance moins 43 secondes qui ont suivi l'instant 0, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, puisque la physique est incapable de décrire un point si dense, si petit et si chaud. Ce point-là qui est en fait le mystère le plus complet de l'univers, à partir de là où tout commence, la singularité initiale. Je réponds au DM Instagram si vous avez des questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zebrolos. Abonne-toi.